Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à Montpellier dans le quartier de Lamartelle, en haut d'une rue tranquille, peu bâtie, la rue du Mas de Prunay, et de faire halte à la Bulle Bleue. La Bulle Bleue, elle se définit comme une fabrique artistique. Nous allons voir ce qui se passe. Pour nous en parler, j'ai invité Anne Botz. Elle merci de venir au micro de Divergence FM. Depuis le début de l'année, vous êtes la directrice adjointe de la Bulle Bleue, aux côtés de Delphine Morel, sa directrice. Vous avez un parcours professionnel dans le spectacle vivant, plus particulièrement dans la danse, avec des fonctions de production et de diffusion, successivement dans trois centres chorégraphiques nationaux, à Mulhouse, puis à Belfort, et enfin à Montpellier, de 2011 à 2025. Autant dire, vous n'arrivez pas de la Lune. Mais avant que vous nous parliez de vos activités, racontez-nous votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de la ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Anne Botz, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement et auxquels vous êtes attaché, que vous recommandez peut-être à vos amis de passage?
Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors moi, je suis là depuis une dizaine d'années, un peu plus maintenant, presque 15. Et c'est vrai que je vis dans l'Écusson, en fait, depuis tout ce temps. Et du coup, j'ai un rapport vraiment à l'Écusson. Et c'est vrai que je me suis beaucoup promenée au Jardin des Plantes. C'est un lieu que j'affectionne particulièrement parce qu'on y voit le passage des saisons. Et je pense que j'ai les mêmes photos que je prends tous les ans. Et pour moi, c'est un lieu qui est chargé d'histoire dans lequel je retourne assez régulièrement. Et après, ce que j'aime dans Montpellier, c'est son côté à la fois ville foisonnante et petite ville où tout est facile. J'ai ma piscine, je vais à la piscine Pitot parce que j'adore nager. J'ai vécu longtemps place de la Canourgue. Je vais manger au bistrot Umami que j'adore. C'est plein d'endroits qui sont à la fois conviviaux et culturels. Et j'aime bien aller boire un cocktail au Faune, par exemple, et aller visiter
le Mouton. On a le droit de recommander des adresses.
Ouais.
C'est un côté qu'il n'y a pas de contrepartie et il n'y a pas de publicité commerciale sur l'antenne de Divergence.
Donc... Je me suis permise, du coup.
Très bien. Alors, deuxième question sur cette petite introduction. Donc, vous habitez dans Montpellier depuis 14 ans. Qu'est-ce qui, selon vous, caractérise Montpellier? Vous connaissez d'autres villes, mais quelle est, je veux dire, la personnalité de Montpellier? Comment la décrirez-vous?
Et moi, je viens de l'Est. J'ai vécu très longtemps à Strasbourg et j'ai un rapport à ces villes-là. Je trouve que c'est des villes qui sont des villes de taille moyenne, mais qui sont d'une facilité et dont on perçoit assez rapidement l'âme. Montpellier, c'est une ville dans laquelle on se perd. Il y a des petites ruelles. Mais qui est chargé d'histoire et que j'aime beaucoup pour sa facilité et pour
la vie quotidienne et l'agrément que procure la ville.
Ouais. Et donc, je dis ça, je viens de l'Est, mais j'ai aussi un grand attachement aux Cévennes, puisque j'y ai passé tous mes étés. Et c'est vrai que du coup, j'étais très heureuse d'arriver dans cette ville et de faire comme ça une ville très pratique et très belle, la mer à côté, la campagne pas loin. Enfin, moi, c'est vraiment un mode de vie qui me convient.
Pas prêt de partir, donc.
Non, a priori, non.
Très bien. Bon, maintenant, donc, allons à la Bulle Bleue. Alors, à notre première question, toute simple. La Bulle Bleue, pourquoi ce nom?
Alors, il a fallu que je suis arrivée...
Alors, je dis aux auditeurs que vous êtes là depuis peu, donc, et vous n'aviez pas la réponse quand on a préparé l'émission.
Et non,
donc, j'attends la réponse.
Ouais, non, je n'avais pas la réponse, parce qu'effectivement, je suis arrivée... alors, je connais la Bulle Bleue depuis longtemps, parce que je l'ai fréquentée en tant que spectatrice avant d'y travailler. Et en fait, j'ai dû demander cette information à Delphine Morel, qui est directrice de la Bulle Bleue, et qui me racontait qu'au départ, c'était un projet de cirque, où ils avaient prévu un prototype de chapiteau gonflable... Et le projet s'est pas fait, mais le nom a été déposé et
il est resté.
Et il est resté. Et finalement, la compagnie, tout le monde s'est approprié ce nom-là. Et il reste.
Très bien. Ouais. Bon, donc c'était en 2012. Donc,
c'était même avant ce
même
projet.
Avant. Ah oui, c'était la préhistoire de la Bulle Bleue. Alors, la Bulle Bleue, bon, je dis que dans quel cadre ça se situe, est un ESAT. c'est-à-dire un établissement et service d'accompagnement par le travail, c'est-à-dire une structure médico-sociale de travail protégé destinée aux personnes en situation de handicap en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Donc ça, c'est la définition officielle, administrative, mais ce n'est pas un ESAT comme les autres. Pourquoi ? Qu'est-ce que cet ESAT a de particulier ?
Quelle est sa particularité ? Il fait partie de la quinzaine d'ESAT artistiques qui existent en France, c'est-à-dire que c'est un lieu qui a été construit...
Oui, une quinzaine sur 1400.
Oui,
c'est-à-dire
oui,
bon, 1%.
Bien, ouais. Ouais, oui, très très peu. C'est vrai que c'est des projets très singuliers, c'est des projets très, très engagés. Il faut savoir que c'est des projets qui sont vraiment des projets d'éducation populaire et d'accompagnement par le travail. Et du coup, c'est une association, la DPEP 34, qui à un moment donné s'est engagée à accompagner cette question du travail via la question artistique et culturelle. Et donc, c'est un ESAT qui a créé, monté, formé, accompagné des comédiens. Aujourd'hui, il y a une troupe permanente de 16 comédiens et comédiennes. Et qui se définit comme une fabrique artistique. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement un lieu où on donne des cours de théâtre, on fait
voilà,
des créations.
Voilà, ce n'est pas un loisir, c'est une activité. On y reviendra, bien sûr. C'est une activité professionnelle.
Ce sont des comédiens et des comédiennes voilà, professionnelles.
Dévolues au spectacle, au théâtre. Mmh. Alors, autre indication dans le général pour que les auditeurs et auditrices y retrouvent, la bulle blé est née de la volonté de la PEP 34, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Hérault, qui gère des centres de loisirs, d'hébergement et d'accompagnement d'enfants, d'adolescents et d'adultes les plus vulnérables. La Bulle Bleue est ainsi un acteur de l'éducation populaire, vous l'avez dit, et aussi de l'économie sociale et solidaire, auquel Divergence s'intéresse régulièrement. Alors voilà le cadre dans lequel la Bulle Bleue s'inscrit. Anne Bosse, comment se définit ce projet artistique que la Bulle porte ? Quelles sont ses caractéristiques, les principes sur lesquels ce travail s'effectue ?
Alors c'est une fabrique artistique qui comprend donc une compagnie de théâtre, un service restauration et un atelier paysagisme.
On y reviendra, oui.
On y reviendra. Et la compagnie, donc, c'est vraiment l'idée de travailler de travailler avec des metteurs en scène et metteuses en scène associés sur du temps long et de proposer à la fois des temps de formation, des essais, des créations avec les comédiens de la Bulle Bleue, et je dis bien avec et pas pour, parce que c'est vraiment cette question-là. Et donc, sur 3 ans, depuis 2012, il y a un artiste associé qui fait des propositions qui peuvent être soit des très grandes pièces, comme l'a fait Marie Lamachère, des formats assez différents. Actuellement, on a 3 artistes associés, puisque c'est l'idée aussi de travailler de façon enchaînée en proposant chaque année une création avec la compagnie. Donc les artistes associés, c'est Futuri Moral, Paola Stellamini et Constantinos Ritzos, qui sont chorégraphes. Et c'est moi, je suis très contente de ça, venant de la chorégraphie.
Vous retrouvez la danse.
Et je retrouve la danse. Félicie Artaud, qui va travailler sur un spectacle jeune public, Sortir du gel, et Nicolas Heredia, la vaste entreprise qui est basée à Montpellier, qui va travailler aussi sur un autre format pour le mois de novembre. Donc c'est vraiment l'idée d'essayer des formats, de faire des propositions.
Donc ces artistes invités,
oui.
On est quand même sur un temps long,
oui.
3 ans, donc ils ont le temps eux-mêmes, je dirais, de s'intégrer, de s'approprier ce qu'est la Bulle Bleue.
Oui.
Et d'apporter donc le choix du spectacle, du texte, la mise en scène, bien sûr, la mise en mouvement à la fois des comédiennes et des comédiens, et des 4 techniciens aussi qui travaillent pour le théâtre de la Bulle Bleue. C'est ce cheminement donc que la Bulle Bleue a voulu et qui se développe donc par saisons successives.
Oui, il faut savoir qu'il y a 12 ans, c'était l'idée tous ensemble de commencer une aventure. C'était le début d'une troupe, il fallait se former, il fallait...
C'est une espèce de pari assez incroyable.
C'était un pari assez incroyable et c'est assez beau de voir aujourd'hui, où moi je suis très contente d'avoir intégré le projet aujourd'hui. Donc il y a 12 ans, c'était l'idée que les artistes soient présents en immersion avec les acteurs, qu'à la fois il y ait une démarche de formation et de création, et c'est vraiment quelque chose qui a perduré, c'est-à-dire les artistes associés, ça commence par une rencontre, on voit qui, les forces en présence, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et tout ça se construit assez collectivement. Et depuis 12 ans, c'est vrai que on grandit tous ensemble, en fait.
Oui, parce qu'on en parlera. Bon, il y a eu, bien sûr, une espèce de maturation du projet, hein, de professionnalisation progressive, qui explique ensuite que des spectacles peut-être plus complexes, qui demandent un peu plus d'engagement des comédiennes qui sont à l'affiche, alors qu'ils ne l'étaient peut-être pas dans les premières années. Oui.
Non, après, l'exigence artistique, elle a toujours été présente. Ça a toujours été, le cœur du projet. Et aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est vraiment que ces spectacles soient présents, soient reconnus sur... Et ça commence, et il y a un mouvement, mais qui est parfois un peu timide, sur les scènes des théâtres qu'on dit ordinaires.
Oui. Oui, parce que c'est peut-être ça. Bon, on l'abordera par d'autres biais, ça. C'est à la fois, je dirais, une troupe, un théâtre pas ordinaire, mais qui est quand même ordinaire, en quelque sorte, puisque l'offre de spectacle, elle se situe à côté des autres lieux de théâtre. Oui. On en parlera à Montpellier, donc. Alors, une petite vue là, sur les prochains rendez-vous, là, qui sont donc à l'affiche de la Bulle Bleue dans votre théâtre, donc dans le quartier de la Martelle, pour qu'on ait un petit regard sur ce qui va se produire dans les semaines qui viennent.
Ouais. Alors, c'est assez foisonnant, donc je vais vous faire une petite liste à la Prévert, mais en tout cas, ça permet aussi de donner un peu un aperçu de...
Oui, peut-être ça peut également donner une idée de la diversité des genres ou des univers dans lesquels ces spectacles se situent.
Bah, en tout cas, là, il y a des choses qui vont se passer en collaboration. Donc, il y a un spectacle en extérieur, enfin, un spectacle art de la rue qui est programmé le 27 mars avec la Téline, qui est un de nos partenaires assez fidèles. Ça s'appelle Tu es là. On en reparlera tout à l'heure, mais le centre de formation a commencé, vous l'avez évoqué, le 10 mars. Donc, on présente aussi la sortie de ce laboratoire et c'est vraiment ouvert à tous. C'est toujours des moments très réjouissants. Et puis, on retrouvera au Théâtre Jean Villard les 6 et 7 mai Julien de Maglone Vidal, qui a été fait pour un acteur de La Bulle Bleue. Et après, on est très contents parce que là, on arrive sur deux créations des artistes associés. Donc, Futur Immoral qui fera une création donc, chorégraphique sur le Sacre du Printemps, dont une étape de travail sera montrée le 20 juin et qui sera créée ensuite dans le cadre à l'Opéra de Montpellier.
Pendant Montpellier Danse, du coup, là.
Alors, on n'est pas pendant Montpellier Danse.
Ouais, ça s'appelle un peu le off qui précède.
En tout cas, la création aura lieu en septembre et c'est une belle collaboration avec l'Opéra. Après, c'est vrai que c'est vraiment un lieu de théâtre. Donc, nos partenaires, c'est le Printemps des Comédiens, c'est le Centre Dramatique National. Mais l'idée, voilà, c'est que ces partenariats, ils continuent à grandir et à grossir au regard des projets spécifiques qui sont proposés. Et peut-être une dernière chose, de parler de Nicolas Heredia, qui est la vaste entreprise, qui sera présent aussi en tout début de saison prochaine avec un spectacle qui s'appelle...
Anne regarde son antisèche.
Oui, parce que pour le coup, ça fait partie des titres des spectacles où je me trompe toujours, donc je vous le redirai tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est un spectacle qui sera présenté dans le cadre de la Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée, donc c'est un autre partenariat avec le Centre Dramatique, et qui sera présenté au mois de novembre.
Un mot sur cette Biennale des Arts de la Seine, pas nécessairement connue. De quoi s'agit-il ? C'est une programmation qui concerne plusieurs lieux, plusieurs...
Alors, c'est le Centre Dramatique National qui est à l'origine de cette belle proposition, qui est l'idée de travailler tous ensemble. C'est vraiment une co-construction avec les acteurs de Montpellier pour présenter la création artistique en Méditerranée. Et ça veut dire qu'ils ont un très fort engagement, notamment au Liban. Ils nous ont proposé... aux partenaires artistiques et culturels de construire ensemble un regard sur la création artistique en Méditerranée.
Donc la Bulle Bleue va prendre sa part dans ce programme.
Exactement, d'accord. Exactement. On accueille Christelle Rodre, qui est une metteuse en scène libanaise proposée par le CDN, et nous, on programme Nicolas Heredia, qui, par sa localisation à Montpellier, est aussi un artiste de la Méditerranée.
Donc, ça signifie au passage, on va l'aborder par d'autres biais, que la Bulle Bleue est quand même dans ce réseau de lieux culturels, dévolus au spectacle vivant, le théâtre, la danse et autres formes.
Oui, c'est un lieu. Moi, je suis arrivée il y a quasiment 2 mois maintenant, mais c'est un projet que je suis depuis longtemps. Et c'est vrai que je vois à quel point c'est à la fois un lieu de création et un lieu de spectacle qui est inséré dans le tissu artistique montpelliérain. C'est un lieu que les gens connaissent quand même, qui est reconnu au niveau local et au niveau national, et qui aujourd'hui n'a pas à rougir ni de sa programmation ni de sa création, et qui est un acteur important qui fait partie de l'écosystème.
Alors, à propos d'écosystème, pour reprendre cette expression, on l'a un peu évoqué. Donc, les précédentes années, la Bulle Bleue a vu ses spectacles accueillis par les deux grands lieux, pas les seuls, mais les deux grands lieux du théâtre à Montpellier, à savoir le Centre dramatique national Théâtre des 13 Vents et le festival Le Printemps des Comédiens. Et cette année, donc, où cette troupe, j'ai un plat dessin, l'homotroupe, c'est une troupe, va-t-elle jouer hors les murs, là, quels sont les autres lieux où vous allez porter la flamme de la Bulle Bleue?
Eh bien justement, déjà à l'Opéra, c'est ce qu'on évoquait avec la création d'Euphoria de Futur Immoral. Et puis on a un beau projet dans le cadre d'M28 où plusieurs projets vont, notamment Euphoria va jouer au CHU La Colombière. Le bal, qui est une très belle forme participative, tout public, tous âges, va jouer à Sète et à Frontignan. Et puis la création de Nicolas Heredia, notamment, va tourner dans pas mal de scènes nationales au niveau français. Donc c'est vraiment un travail qui sera
hors de la région.
Donc. Hors de la région, voilà. On sera à Tarbes, et avec cette pièce, Nicolas Heredia sera à Tarbes et à Albi aussi. Mais donc voilà, c'est un travail qui prend toute sa place et toute sa place.
Et Rossette et Frontignan, qu'est-ce qui, parce que vous l'avez, on l'a évoqué, bon, Divergence couvre cette région, qu'est-ce qui va se passer là du côté de Sète?
À Sète et Frontignan, donc c'est toujours dans le cadre d'M28, de ce projet M28.
Alors je rappelle, M28, c'est la dénomination qu'a gardée la candidature de Montpellier au titre de capitale européenne de la culture. J'ai dit au passage que ce mouvement, ce rassemblement de talents et d'énergie se poursuit sous la dénomination M28.
Tout à fait, les chemins du vivant. Et donc on propose un projet qui s'appelle Act to Act, où on collabore donc avec le Centre chorégraphique de Montpellier, le CHU La Colombière, et tout ça est encore en cours de construction, mais en tout cas, l'idée, c'est de présenter le bal, donc cette forme participative, en lien avec une structure qui s'appelle Scopi à Frontignan et la mairie de Frontignan. Et là, on est en discussion avec le TMS et le Dancing à 7 pour présenter le bal.
Et ce serait quand? À l'automne prochain?
Ce serait fin septembre.
Ah d'accord, voilà,
ouais, c'est donc ça. C'est très proche.
C'est du boulot, quoi.
La forme est prête, on est dans les starting blocks.
Alors, on a évoqué les comédiens, les 16 comédiennes et comédiens, mais porteurs de divers handicaps. Vous les avez sinon découverts, du moins accompagnés et suivis depuis les quelques semaines où vous êtes là. Alors, non pas sur le mode, ils sont formidables, le mode promotionnel, mais en fonction de votre sensibilité personnelle et de vos compétences et votre expérience dans le spectacle vivant, qu'est-ce qui vous a frappé? Alors, vous les connaissiez, vous l'avez dit, comme spectatrice.
Bon,
vous n'arrivez pas là aussi de la Lune, mais oui. Est-ce que vous avez un dire pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien ce qui se passe là? Qu'est-ce que ça de. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors, c'est des comédiens, comédiennes qui sont à des endroits différents parce que certains sont là depuis 12 ans et d'autres viennent d'arriver. C'est vrai que ce qui est assez frappant quand vous venez, c'est déjà un endroit extrêmement foisonnant. Les acteurs et les actrices sont tout le temps au travail. Il y a un grand professionnalisme de leur part, ça révise les textes, ils sont accompagnés quand c'est nécessaire et une équipe d'éducatrices qui les accompagne pour aménager les choses. Mais en tout cas, c'est vraiment une troupe très très engagée qui aujourd'hui est en capacité de défendre ce projet, de monter seule sur le plateau, d'écrire des textes. Certains écrivent des textes et il y a cet esprit de troupe qui s'est construit sur les 10 dernières années et qu'aujourd'hui on accompagne avec eux, en tout cas qu'on construit tous ensemble sur d'autres champs.
Alors précisément, bon, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est produit, comment cette professionnalisation s'est installée au fil des années. Alors, dans une interview donnée à nos confrères de France Bleu Héros par la directrice de la Bulle Bleue, Delphine Morel, elle résumait ainsi la démarche de mise à niveau des comédiens et comédiennes, dont je cite « un accompagnement par des éducateurs spécialisés, comme dans les autres ESAT, sur d'autres métiers, qui vont ajuster leurs pratiques professionnelles pour qu'ils exercent pleinement leur métier. À quel point cette méthode, ce parcours de formation ont-ils fait leur preuve ?» Vous venez un peu de le dire, mais je pense que c'est intéressant d'appuyer là-dessus pour donner à penser que s'il y a de la qualité ensuite dans les spectacles, ça n'est pas pour rien. Quoi.
Les éducatrices spécialisées, ce qui est intéressant, c'est qu'elles se sont formées. On est en train, quelque part, de créer un nouveau métier. Et je dis ça parce qu'on est très militants sur cette question-là. Et ce sont des comédiens et des comédiennes qui ont besoin d'un accompagnement. Donc, progressivement, l'idée, c'est qu'ils soient de plus en plus... qu'ils aient de moins en moins besoin de cet accompagnement. Et ça a fait ses preuves. Aujourd'hui, on est en train de monter un centre de formation. Et c'est pas pour rien. C'est vraiment pour dire que aujourd'hui, le professionnalisme de ces acteurs et de ces actrices n'est plus à questionner, mais qu'il faut, comme tout un chacun d'ailleurs, à un moment donné, il y a un besoin d'accompagnement, et ben on le prévoit, on l'accompagne et on va vers l'autonomie,
Alors, je le résume à ma manière. Il y a à la fois un accompagnement dans tous les ESAT.
Oui.
Pour que ces personnes soient véritablement intégrées professionnellement, fassent un métier complètement, et pas, je dirais, de manière partielle ou insuffisamment compétente. Et après, bon, il y a ce qui se passe notamment en matière de culture, où il y a la maturation, le travail collectif, l'apport des artistes invités qui viennent, bien sûr, enrichir l'expérience et la compétence des comédiens.
On est au croisement de tout ça, et dans un ESAT, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les travailleurs pour qu'à un moment donné, ils puissent justement sortir de l'ESAT.
Bien sûr. C'est-à-dire trouver leur place ailleurs, dans
exactement.
Une autre troupe, quelque part, en France, peut-être.
Qui sait.
Ça va finir par se produire.
Et puis je vous dis ça, mais nombre d'entre eux aujourd'hui travaillent pour des metteurs en scène en dehors de l'ESAT. Il y en a de plus en plus.
Il y a des metteurs qu'ils ont choisis, ou en tout cas qui ont répondu favorablement à leur offre, pour les intégrer dans leur propre spectacle.
Tout à fait, oui.
Alors vous l'avez évoqué, la Bulle a lancé, c'est tout récent, le 10 mars, une nouvelle initiative, un centre de formation. Alors quels sont ses objectifs, ses programmes et les personnes auxquelles il est destiné? À quoi ça va servir? Parce que ça, c'est un champ d'activité nouveau qui s'appuie, on l'a compris, sur l'acquis que vous venez de décrire, mais qui ouvre une nouvelle voie dans les activités de la Bulle Bleue.
Le constat, quand même, c'est le manque d'accès aux formations d'artistes en situation de... le manque de formation inclusive, on va le dire sur ce mode-là plutôt, et la difficulté pour ces artistes-là de se former. Donc on a décidé de prendre un peu le taureau par les cornes et de proposer sur 2 ans 4 cycles de formation mixtes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est pas encore tout à fait le cas, mais à plus ou moins long terme c'est l'idée d'avoir à la fois des artistes en situation de handicap et des artistes... de pouvoir non pas nous devenir, alors l'idée c'est de pouvoir effectivement devenir centre de formation, mais l'idée c'est pas d'enfermer cette formation à l'intérieur de l'ESAT, mais plutôt aussi de créer des outils qui seraient transposables à d'autres formations pour que les choses évoluent et que ce qui est déjà un peu le cas, le conservatoire a une classe qui permet de préparer les concours, on a des collaborations avec des écoles, notamment à Saint-Étienne, mais c'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, nous, l'idée, c'est vraiment de créer des outils et de proposer, en tout cas, des modèles de formation qui, espérons-le, feront des petits.
Parce qu'ils sont à... Il y a l'acquis, mais ils sont à mettre au point ces modèles de formation, je dirais, à formaliser en quelque sorte, à partir de l'expérience acquise depuis 2012.
Tout à fait. Et c'est vraiment cette question d'accompagnement, les outils, l'accessibilité. On travaille beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, c'est une formation. Si vous venez, il y a un training, il y a des cours de jeu, il y a un travail sur le corps, il y a différents intervenants. Mais par contre, il y a un certain nombre d'outils qui font que il y a une adaptation pour la lecture des textes, il y a un temps pris pour il y a des rythmes aussi qui sont posés, et c'est vraiment pour nous aujourd'hui, que ce soit au niveau des acteurs ou au niveau de la formation, de dire il y a une nécessité d'accompagnement, prenons-la en compte et accompagnons en tout cas tout le monde à la formation et à exercer un métier.
De toute façon, dans les autres ESAT qui forme un boulanger ou une informaticienne, c'est la même démarche de mise à niveau. Là, en revanche, le centre de formation, ça devrait faire rayonner la Bulle Bleue au-delà, parce que bon, les gens formés, ils vont pas nécessairement être recrutés dans la tour permanente de la Bulle Bleue, mais aller ailleurs.
Non, et puis c'est vraiment l'idée de se construire des gens qui sont passés par là, des alliés, c'est vraiment ça. Enfin, c'est vraiment de construire tout un environnement favorable à ces questions inclusives.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le public. Quel type de public la Bulle Bleue accueille-t-elle? Vous avez montré un peu la diversité des spectacles, des genres, des univers dans lesquels ces spectacles s'inscrivent. Mais comment ça se traduit dans le public que vous accueillez?
C'est un public qui est assez mixte parce que c'est à la fois effectivement un public du spectacle vivant qui a l'habitude de fréquenter les lieux, qui vient parce qu'ils viennent voir Bruno Gélin ou Marion Coutarel, enfin voilà, pour un artiste, et peut-être qu'ils ne reviennent pas après. Mais il y a aussi un public de proximité qui vient du quartier. Ça reste un établissement médico-social, donc il y a aussi voilà, le projet politique et le projet social du lieu amène aussi pas mal de gens. Donc c'est toujours très joyeux parce que c'est un public vraiment divers.
Alors, on l'a évoqué au début, vous aussi, dans ce projet de la fabrique artistique, la Bible et Porte, il y a également des cuisiniers, des jardiniers. Alors, ça vaut le coup quand même d'en dire un mot. Quelle place trouve-t-il avec également cette même objectif de créativité, quoi, d'accueil et de créativité?
Alors, parlons des cuisiniers. Non, il y a des projets qui sont transversaux. Il y a les cuisiniers, il y a une activité qui est une activité commerciale de self,
de traiteur,
il y a un café fabrique où vous pouvez venir manger à midi. Enfin voilà, il y a vraiment une activité commerciale. Mais en parallèle de ça, c'était l'idée de créer un environnement autour d'une dynamique artistique. Donc aujourd'hui, on a un nouveau cuisinier qui s'appelle Antoine Jabouin, mais c'était déjà le cas avec le cuisinier précédent. Il y a vraiment la question de travailler spécifiquement sur une direction artistique des menus. Il y a des repas dans le noir qui sont aussi un format artistique auquel vous pouvez participer. Il y a des repas dans le noir. Et alors moi, je ne l'ai jamais testé, mais je pense que je vais le faire bientôt. Il paraît que c'est super. C'est deux fois par an et c'est très, très vite plein. Voilà, il y a eu des restaurants éphémères. On s'autorise aussi peut-être à penser qu'il peut y avoir un artiste qui vienne intervenir, qui soit ici en résidence pour travailler sur ces questions-là. La question du paysage, c'est pareil. C'est comment c'est traversé artistiquement. Donc voilà, on est vraiment sur un endroit de fabrique. Alors effectivement, l'endroit le plus visible, c'est la compagnie. Mais tout ça infuse aussi dans les menus, dans les projets, dans ce qu'on pourra faire aussi autour de la question du paysage.
En plus, ces paysagistes, ils sont à côté du futur grand agri-parc des Bouistes, là, qui est en gestation à partir des parcs existants. Très bien. Alors, peut-être une toute dernière question. Vous l'avez un peu fait, mais si vous aviez, quand on nous interroge, qu'est-ce que c'est, là, un ami vous dit, c'est quoi exactement la Bible bleue, qu'est-ce qui se passe, là, une réponse comme ça, quand on fait quelques mots, qu'est-ce que vous dites quand on vous pose la question? Pour résumer, ce que ça a de particulier et presque aussi, sinon de banal, du moins, bon voilà, lieu de spectacle, oui.
Oui, c'est vraiment un lieu de spectacle. Et d'ailleurs, c'est pas tant la question du handicap que la question de la création. Donc, quand on me pose cette question-là, je dis viens voir, tu seras vraiment étonné, en tout cas, et ravi de l'exigence artistique qui est portée par tous. On a un lieu de spectacle qui est magnifique. On a des comédiens et des comédiennes hyper engagés. C'est super convivial. On est vraiment un lieu de spectacle vivant avec la particularité d'être au croisement de l'artistique et du médico-social, ce qui peut à la fois être une force et parfois aussi un peu fragilisé.
Oui, bien sûr, ça induit des caractéristiques.
Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment de dire, c'est une troupe. Il faut venir voir le travail de la troupe.
Donc, merci Anne Bors. Et donc, cap vers la Bulle Bleue, rue du Mas de Prunay, où vous serez accueillis à bras ouverts. Merci, chers auditeurs.
Merci beaucoup.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Bah, Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.